Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Jean Cocteau a inventé pour elle l'expression « monstre sacré », tant les superlatifs manquaient pour désigner la comédienne la plus marquante de la Belle Époque, dont le souvenir est encore bien présent, 100 ans après sa disparition. Je vous raconte maintenant la divine Sarah Bernhardt qui a mis en scène sa mort aussi bien que sa vie. La comédienne est couchée dans un cercueil confortablement capitonné de satin blanc, les yeux clos, les mains croisées sur la poitrine. Si jeune, elle est recouverte de gerbes de fleurs. La photo a fait le tour de Paris, puis du monde entier. Voyeurisme funèbre, non. Acte totalement délibéré, car Sarah Bernhardt n'est pas morte, elle dort paisiblement. Ou plutôt, elle joue l'endormie dans une mise en scène dont elle sait qu'elle marquera les esprits et suscitera l'attention de ceux qui ne l'avaient pas encore remarqué. Son cercueil en bois de rose ajoute une note certaine à la décoration macabre de son appartement parisien, au mur déjà tendu de satin noir et dans lequel elle expose un crâne humain. Dans cette bière élégante, Sarah Bernhardt dit faire de courtes siestes ou bien relire les rôles dont elle doit apprendre le texte. Si la pratique choque ses contemporains de la Belle Époque, elle n'est pourtant pas si étonnante, considérant la passion de la comédienne pour les morts théâtrales. Chaque soir, sur les planches, la grande Sarah interprète des agonies spectaculaires qui font s'émouvoir des salles entières. Elle sait particulièrement bien révulser les yeux et s'évanouit parfois pour de vrai, tant elle est habitée par chacun de ses personnages. « Je me quitte », dit-elle, quand elle sort de sa loge pour entrer sur la scène. Sarah Bernhardt naît en octobre 1844 à Paris d'une mère juive hollandaise, demi-mondaine et de père inconnu. Tout au long de sa vie et bien des années après sa mort, un mystère épais entoure ses origines. Un mystère largement entretenu par l'intéressée elle-même. La petite fille grandit dans des institutions religieuses, loin de sa maman qui la délaisse. Après avoir un temps envisagé de prendre le voile, l'adolescente de 14 ans retourne finalement à la vie civile et retrouve sa tante, amante du demi-frère de Napoléon III, le duc de Morny. Convaincue de l'importance de l'éducation des jeunes filles, l'aristocrate inscrit la jeune Sarah dans une école de dessin et de peinture, où son talent fait merveille. Il lui fait également découvrir le théâtre, depuis sa loge de la Comédie-Française, et lui suggère de se présenter au concours du conservatoire. Elle accepte. Mais le jour venu, Sarah Bernhardt n'est pas prête. Elle n'a personne pour lui donner la réplique et choisit au dernier moment de réciter une fable de La Fontaine. Un choix incongru, mais qui fonctionne. Sans même attendre les résultats officiels, le jury la déclare reçue à l'unanimité. C'est le début d'une carrière extraordinaire. Après 2 années d'apprentissage, elle entre à la Comédie-Française. L'actrice, encore débutante, est déjà intraitable. Elle ne tarde pas à se faire renvoyer pour avoir giflé une doyenne de la compagnie. Sarah la Scandaleuse construit sa réputation. Sans revenu, la comédienne est contrainte de monnayer ses charmes auprès de riches industriels, de banquiers, de diplomates et de marquis. D'autant qu'elle a eu entre-temps un enfant, Maurice, avec un noble belge, Charles-Joseph-Eugène-Henri, prince de Ligne, hors mariage évidemment. En 1869, à 25 ans, Sarah Bernhardt connaît enfin son premier grand succès populaire sur la scène de l'Odéon, dans une comédie où elle a l'audace de jouer travestie un poète, un trouvère adolescent. Le public découvre sa chevelure presque rousse et crépue et son regard bleu azur. Il est séduit par sa silhouette svelte et androgyne qui détonne à une époque où la mode est aux courbes et aux rondeurs. Sarah Bernhardt a une diction parfaite et une présence scénique incontestable. Son attitude, ses poses, le jeu de ses bras et de ses mains ont quelque chose de magique. Les critiques sont élogieuses, le public est conquis. Et voilà Sarah Bernhardt conviée à jouer à la cour devant le couple impérial, Napoléon III et l'impératrice Eugénie. 3 ans plus tard, elle joue Ruy Blas devant Victor Hugo lui-même, qui la surnomme émue la voix d'or. La Comédie-Française la rappelle, elle joue Phèdre et Hernani, mais pas pour longtemps. La divine, comme d'autres la surnomment, entend imposer ses propres règles. Aux États-Unis, on lui propose jusqu'à l'équivalent de 5000 francs par représentation, contre 400 seulement au théâtre français. Alors, Sarah Bernhardt part en tournée à New York, Los Angeles et dans l'Ouest américain. On la verra au Pérou, au Chili et jusqu'en Australie. La vedette joue en français, mais qu'importe. On vient pour sa voix, sa gestuelle et surtout pour dire qu'on l'a vue. Sarah Bernhardt est la première grande star internationale, bien avant Hollywood et son cinéma. Son impresario associe son image à des publicités, des affiches qui depuis peu recouvrent les murs des villes. incrédule, la star tombe nez à nez avec elle-même devant des réclames vantant le goût d'un cigare, les bienfaits d'une absinthe, d'un fer à friser ou d'une poudre de riz. D'abord réticente, la comédienne se laisse convaincre. Oui, c'est ainsi qu'elle acquiert plus de notoriété et un public toujours plus nombreux. Elle a tout compris de l'importance grandissante de l'image. Et la sienne fait vendre. Heureusement, car Sarah Bernhardt dépense aussi énormément. Alors elle repart souvent en tournée. L'actrice voyage léger. Une quarantaine de malles de vêtements et quelques centaines de paires de chaussures, tout au plus. Elle ne se déplace pas non plus sans sa vaisselle, sa literie, ses amis et sa ménagerie. Boa, lionceau et bien sûr son alligator, Ali Gaga, prétendument décédé d'un excès de champagne. Même son cercueil parfois la suit dans ses déplacements, aux grandes dames des hôteliers qui la reçoivent. Omniprésente dans les rues et dans les magazines, Sarah Bernhardt devrait-elle se méfier de lasser son public ? Alors que le 19e siècle vit ses derniers instants et que la tragédienne approche des 60 ans, une question se pose. Le siècle nouveau, la fera-t-elle passer de mode ? À la toute fin de l'année 1894, un imprimeur parisien reçoit un coup de fil de Sarah Bernhardt. Elle veut commander en urgence des affiches pour son prochain spectacle. Mais voilà, tout le monde est en congé. C'est donc un jeune illustrateur tchèque inconnu, ou presque, Alphonse Moucha, qui s'y colle. Il dessine une effigie de l'impératrice du théâtre, tout en courbe et en couleur, rehaussée de motifs végétaux. Voilà Sarah, égérie du style Art Nouveau, qu'elle incarne désormais mieux que quiconque. Après 30 ans de carrière, la comédienne a le talent de rester à l'avant-garde. En 1900, pour l'exposition universelle de Paris, est diffusé son premier film, Le Duel d'Hamlet. Elle est l'une des premières à accepter de tourner au cinéma, un genre encore mal considéré. Sur le plan politique aussi, Sarah Bernhardt est en avance sur les questions de son temps. Engagée auprès d'Émile Zola pour la défense du capitaine Dreyfus, elle se bat aussi contre la peine de mort et pour les droits des femmes. Pionnière dans tous les domaines, l'artiste teste la chirurgie esthétique pour tenter d'atténuer les rides de son visage, d'abord aux États-Unis, puis en France, auprès d'une femme d'ailleurs, Suzanne Noël, une précurseur de la discipline qui bientôt soignera les gueules cassées. Le tout en continuant de jouer, bien entendu. En 1915, une maladie l'oblige à se faire amputer de la jambe droite. Sarah Bernhardt a 70 ans. Il en faut plus pour la faire renoncer à la scène où elle se produit désormais assise. Et c'est sur une chaise construite sur mesure, portée comme une impératrice de Byzance, dit-elle, qu'elle se rend sur le front de la Meuse pour soutenir les poilus. Sa mort, il y a tout juste 100 ans, le 26 mars 1923, met un terme à une carrière de près de 60 ans. Dans Paris, une foule immense l'accompagne jusqu'au Père-Lachaise. C'est là, dans une tombe que Sarah Bernhardt a dessinée elle-même, comme il se doit, qu'elle se met en scène pour la dernière fois. Le monument funéraire en forme de cercueil représente celui dans lequel elle s'était si souvent faite immortaliser de son vivant.